au 93. Vous écoutez Fais-tu bruit? Avec Jean-Simon Buis.
Hey, c'est lundi soir. Ben oui. Hey, il y en a déjà une de passer. Vous avez sûrement fini de travailler. Il n'y a rien que moi qui travaille à cette heure-là, ça a l'air. C'est pas vrai. Plein de monde s'en va à job. Restauration, peut-être. Des gens sur la route. Je sais que il y a des camionneurs qui m'écoutent, des chauffeurs de taxi. 25-2-6. Vous faites dans la vie. C'est le fun d'apprendre à se connaître un petit peu. C'est plaisant aussi de jaser à des gens. Je réalise, on a des auditeurs d'honneur des fois qui nous parlent. Sont comme les camionneurs aux États-Unis. Là, ça me fait triper là, quand il y a des gens qui m'appellent puis tabarouettes sont loin. Là, c'est vraiment le fun. Mais je parle à vous autres, que vous soyez proches, loin. On est ensemble jusqu'à 18h30. Vous savez, mon petit côté nerd, mon côté télé, tout ça, là. J'aime bien ça, des fois, vous donner des suggestions de cinéma ou de séries TV. Ben, ça va être le cas ce soir. Un petit 5 minutes de suggestions, deux séries que j'ai commencées. Hey, dans deux styles, on peut pas être plus éloigné que ça entre deux types de séries, là, honnêtement. Là, les deux séries dont je vous parle, ça se peut là, qu'il y en ait qu'ils détestent l'un puis qu'ils adorent l'autre. Mais moi, je suis un peu weird. Là. J'aime des affaires bien différentes dans la vie, des fois. Bon. Première série, c'est sur Amazon Prime. Écoute, c'est une série fantastique, OK? À un moment donné, Jeff Bezos d'Amazon a dit à sa gang d'Amazon Prime, « Produisez-moi le prochain Game of Thrones, OK? » Donc, c'est gros comme commande. Si vous écoutez Game of Thrones, vous le savez, c'est des épisodes à plusieurs millions de dollars. Alors, il y a une équipe de production, Amazon Prime, qui se sont arrivés avec la série The Wheel of Time, la roue du temps, donc qui vient de paraître sur Amazon Prime. The Wheel of Time, c'est une série que j'ai lue quand j'étais jeune, écrite par Robert Jordan, OK? Série fantastique. Alors, je vous donne un synopsis vraiment rapide sans vous voler de punch. C'est des jeunes hommes, ils ont à peu près une vingtaine d'années, puis il y a une sorcière qui arrive, donc une magicienne, qui dit qu'il y en a un dans cette gang-là qui a une prophétie qui dit qu'il va sauver le monde. Bon, elle part avec eux autres et ça s'enligne. 10 millions de dollars par épisode, c'est ce que ça coûtait. On est loin des budgets au Québec, là. C'est des budgets faramineux. C'est magnifique, c'est vraiment beau, c'est bien filmé, honnêtement. Ça part sur des chapeaux de roue. Là, il y a 3 épisodes qui sont sortis sur Amazon Prime. Ça promet vraiment si vous aimez le style fantastique médiéval, OK? Bon, je sais, mettons, mon ami Karen n'aime pas babé ça. C'est pas le genre de série que je lui proposerais. Mais si vous aimez le style fantastique, vous allez aimer ça. C'est mature, c'est assez violent aussi, là, faut le dire. Donc, c'est pas pour les enfants, c'est 16 ans et plus, mais c'est bien fait jusqu'à maintenant. Les épisodes que j'ai écoutés, j'ai beaucoup apprécié. Donc, La roue du temps de Wheel of Time sur Amazon Prime, si ça vous tente. C'est la première série, quand je vous dis qu'on s'en va complètement ailleurs. La deuxième série dont je vous parle, c'est la deuxième saison d'une série qui vient de sortir sur Netflix. OK? Peut-être la série qui a fait le plus jaser pendant la pandémie. Pensez-y. 2020, on se replonge. Tout le monde est pogné à la maison. Là. On est tous en cabané. Là. Qu'est-ce qu'on écoute sur Netflix? La série qui fait jaser partout dans le monde. Une série bizarre. Là. Une série avec... du monde weird avec qui ça vous tente pas nécessairement de vous tenir. Là. Avec des tigres. Ça vous dit quelque chose? Tiger King? Tell all the hunters to lay down their guns. Tell them that the tiger needs a little bit of love. Let him run the jungle. Avec l'inénarrable Joe Exotic, qui est un propriétaire de zoo véreux, tripeux de tigres, qui finit par payer cher certaines menaces qu'il fait à un autre personnage de la série documentaire qui s'appelle Carole Baskin. Parce que oui, c'est un documentaire. C'est donc la deuxième saison qui vient de paraître sur Netflix. J'avais décrit à l'époque la série comme un accident de char au ralenti duquel tu ne pouvais pas détourner le regard. C'est un peu ça. La deuxième saison, imaginez un accident de char au ralenti qui se poursuit, duquel vous ne pouvez pas détourner le regard. C'est ça, encore une fois. Donc, si vous aimez les tigres, les gens qui détournent des tigres pour leur amusement et leur profit, les gens très redneck et qui consomment un peu trop de drogues chimiques, les gens qui possèdent des guns dans l'Amérique profonde, ben Tiger King saison 2, c'est pour vous. Alors, ce sont toutes des choses très, très divertissantes que vous allez trouver dans la saison 2 de Tiger King. Donc, Wheel of Time pour les amateurs de fantastique, Tiger King pour tout le monde. Tout le monde qui veut se vider le cerveau. Sans passer, c'est une tonne de Joe Exotic. Là. Il chante des chansons sur les tigres. 18h05, salutations! à Steve, qui est livreur de colis, qui vient de finir son chiffre. Bonne soirée, mon Steve. Quelqu'un qui me texte au 25226, chauffeur WRTC, et qui écrit « Faites du buis ». Lui, il a compris avec des points d'exclamation. C'est ça qu'on fait, du buis jusqu'à 18h30. Quelqu'un qui est agriculteur à Montmagny, salut à toi. Quelqu'un qui est fermier également, donc une couple d'agriculteurs qui m'écoutent, c'est super trippant. Quelqu'un qui me dit « Je suis acheteur le jour pour un fabricant de meubles et le soir, fin de semaine, j'ai centre jardin. » Ah, c'est malade, ça. OK, fait que c'est vraiment varié. Écrivez-moi 25226, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Restez là au retour, au genre d'un sujet d'actualité. La cancel culture, la culture de l'annulation. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça existe? Est-ce qu'on peut établir un rapport entre les deux camps opposés? J'en jase avec Judith Lucier qui a écrit un essai qui s'appelle « Annuler ». Restez là!
Faites du bruit. De retour dans quelques instants. 93.
Vous avez un rendez-vous important? Une sortie? Vous devez aller porter vos enfants? Pas le temps d'appeler un taxi? Avec l'appli Taxi Coop, vous n'avez qu'à cliquer pour commander. Paiement tout simple et on vous écrit quand le taxi est arrivé. Taxi Coop 5191, téléchargez l'appli Taxi Coop.
Repensez le confort. La Camry SE 2021 de Boulevard Toyota repousse les limites de l'hiver avec un modèle 4 roues motrices à traction intégrale. Elle vous est offerte à partir de $94 par semaine sur 64 mois. Boulevard Toyota, une voie de confiance.
S'offrir une chapelle comme air de vie, qui l'eût cru? Eh bien, c'est ce que vous pourrez vivre au futur complexe locatif à Beauport, le Divan. Offrez-vous le luxe de la tranquillité pour votre futur milieu de vie avec une vue surplombant la ville de Québec. Murs en maçonnerie et 4 styles d'unités offertes. Du studio à 3 chambres, dont certaines sur 2 étages. Terrasse au toit et aires communes variées, dont espace atelier, billard, golf virtuel, pétanque, cinéma, espace art, lavabo et plus. Réservez votre unité dès maintenant. Le Divan, le summum de l'art de vivre. Ledivan.ca.
Pour les fêtes, achetez une carte cadeau Resto Plaisir de $50 et recevez une carte promo de $10. Une façon simple de gâter vos proches et de vous faire plaisir en même temps. Profitez-en dans tous nos restaurants. Disponible en resto ou sur restoplaisir.com.
Joanne, pourquoi devenir membre de la coopérative funéraire des Deux-Rives?
Pour profiter d'une foule d'avantages. Premièrement, un rabais de 20% sur tous les services. Ensuite, de 5 à 10% chez les fleuristes, traiteurs, plusieurs autres partenaires de la coopérative. Enfin, nos préarrangements peuvent être transférés dans n'importe quelle coopérative funéraire participante. Et il y en a une centaine partout au Québec.
Et côté accompagnement?
En étant membre de la coopérative funéraire des Deux-Rives, eh bien, on profite de la première consultation gratuite chez le notaire et chez le psychologue. Et on a aussi accès gratuitement au groupe de soutien pour les personnes endeuillées.
Merci, Joanne.
Bienvenue. La coopérative funéraire des Deux-Rives, présent à chaque instant.
C'est la semaine folle chez Daniel, la source du sport, au Promenade Beauport, le spécialiste des sports d'équipe. Des rabais incroyables, des prix complètement fous sur presque tout en magasin. Du jamais vu, Daniel, la source du sport.
La source du sport.
Promenade Beauport.
Récupérez vos samedis.
Composez le 1-800-GOT-JUNK et deux équipiers souriants apparaîtront à votre porte comme par magie.
Ils seront à bord d'un beau camion tout propre.
Ils seront vêtus d'uniformes accrocheurs.
Suffit de pointer. Pointer et pointer.
Et tous les objets indésirables disparaissent, disparaissent et disparaissent.
Hourra! Vous avez un samedi.
Appelez-nous.
Et on vous rend vos samedis.
Composez le 1-800-GOT-JUNK.
Ou visitez le 1-800-GOT-JUNK.com.
Salut, on se connaît pas et probablement qu'on se croisera jamais. En fait, ça n'a pas d'importance. Par contre, il y a des gens à qui tu tiens. Et ça t'inquiète qu'ils doutent et hésitent à se faire vacciner contre la COVID-19. Même chose pour leurs enfants. On a tous nos raisons, mais en prenant le temps de les écouter, on peut mieux les rassurer et les accompagner. Et ça, c'est important.
Comprendre l'autre, c'est d'abord l'écouter. Des questions sur les vaccins? Visitez québec.ca/parlons-vaccins. Un message du gouvernement du Québec.
Ah, moi, je gagne jamais. La loto, les concours, même pile ou face. Sauf ma boutique radio.ca. Là, je gagne toujours 50%.
Dès jeudi, profitez de ma boutique radio spéciale Vendredi fou. Une tonne de nouveaux commerces, seulement de l'achat local, à des rabais allant jusqu'à 50%.
Économisez jusqu'à 50%.
Par exemple, chez Matelas Rabais, au Resto Suacoche et chez Daniel, la source du sport.
Tenez-vous prêts, c'est premier arrivé, premier servi.
Ma boutique radio spéciale Vendredi fou, ça commence jeudi à midi. Sur maboutiqueradio.ca.
Au 93, vous écoutez
Faites du bruit!
Avec Jean-Simon Buis. Faites du bruit.
La cancel culture, c'est sur toutes les lèvres depuis quelques mois, voire quelques années. Phénomène dont on entendait à peu près parler. Hein? Pensez-y, là, il y a quelques années, on n'entendait pas parler de ça. On en parle tellement qu'il s'écrit plusieurs essais à ce sujet dans les derniers mois. Des essais que j'ai lus en passant. J'en ai lu, je pense, trois à ce sujet. Le troisième que j'ai lu, c'est celui de Judith Lucier, qui est journaliste, autrice, militante. Ça s'appelle « Annulé ». Et c'est un essai qui m'a beaucoup plu par sa rigueur journalistique, mais avec lequel, évidemment, je pense que de toute façon, c'est toujours sain quand on n'est pas en accord avec tout, avec lequel j'ai des questions, sur lequel j'ai des questions, et je suis très heureux de l'avoir au bout du fil. Allô, Judith?
Bonjour, Jean-Simon.
Merci d'avoir accepté mon invitation. D'abord, dans tes mots, comment tu définirais ça, la cancel culture?
Ben, c'est un phénomène qui est à la fois difficile à cerner, hein, parce que ça implique plusieurs exemples vraiment différents. Ça va des personnes qui sont bannies de l'espace public après avoir été dénoncées pour des agressions sexuelles, aux mots qu'on peut plus dire à l'université, à certaines personnes qui perdent leur emploi pour toutes sortes de raisons qui sont plus en cohérence avec, mettons, la pensée dominante. Mm-hmm. Mais en même temps, c'est dur de cerner les conséquences réelle de tout ça. Est-ce qu'on parle de censure? Est-ce qu'on parle de critique légitime? Est-ce qu'on parle... c'est ça que j'ai essayé de démêler un peu dans mon essai. Puis c'est pas évident parce que effectivement, les exemples sont vraiment disparates.
Oui, puis on réalise quelque chose. Notamment, tu parles de cas dans l'actualité. Ce qu'on réalise, puis ça, je pense qu'on est d'accord à 100% là-dessus. Souvent, les histoires de cancel culture, c'est des tempêtes médiatiques dans un verre d'eau. Là, on pense au Monsieur Patate Gate, là, comme je l'appelle affectueusement. Tu sais, ça, la façon que le titre était propagé, la façon que certains chroniqueurs l'écrivaient, on voulait carrément brûler des Monsieur Patates, ce qui n'était pas du tout le cas. L'indignation, non. Ça pogne, hein, Judith, que ce soit à gauche ou à droite.
Oui, on veut pointer du doigt hein, les woke qui seraient les principaux responsables de la cancel culture, mais en fait, ce qu'on réalise, c'est que ce qui est vraiment à l'origine de tout ça, c'est notre indignation sur les réseaux sociaux. Puis ça, les réseaux sociaux ont rapidement compris que l'indignation, c'est l'espèce de carburant là qui fait qui garde notre attention le plus longtemps possible sur leur plateforme. Puis c'est ça qu'ils désirent. Hein. Plus ils ont notre attention longtemps sur leur plateforme, plus ils vendent de la publicité, plus ils génèrent de profits. Et on comprend de plus en plus que notre santé mentale ou on dit souvent qu'on est très polarisé ces temps-ci. Ben ça, les réseaux sociaux, les plateformes de réseaux sociaux s'en balancent un peu. Eux, ce qui les intéresse, c'est de faire des profits. Puis ben se chicaner sur Internet, pour eux, c'est très profitable.
Autrement dit, s'ostiner sur la cancel culture, c'est payant pour Facebook et compagnie, là.
Absolument, absolument.
J'aimerais qu'on parle d'un cas avec toi parce que tu le glisses dans ton ouvrage, le cas des Stratis. En lien avec la cancel culture. Tu parles notamment à Josiane Stratis dans ton ouvrage. Tu parles de son cas où est-ce qu'elle fait face à une vindicte populaire suite à des allégations de harcèlement psychologique. Et tu notes avec justesse que, bon, c'est peut-être allé très, très loin. Je te fais part d'un autre point de vue que j'ai lu dans le livre de Simon Jaudoin qui s'intitule « Qui vivra par le like, périra par le like ». Josiane Stratis écrit ceci dans une tempête qui touche Simon Jaudoin en été 2020. Est-ce qu'à un moment donné, on va aussi dire à Simon Jaudoin qui l'a soutenu et aidé des violeurs et des hommes dangereux avec le voir, genre, il peut-tu être reconnu accountable, qui a encore peur de cette vieille guenille-là? T'as pas l'impression, des fois, Judith, que les gens qui sont visés par de l'annulation ou par des attaques qui les font disparaître des réseaux sociaux, c'est des gens qui, eux-mêmes, ont un peu vécu par l'épée?
Ça se peut très bien parce que je pense qu'on s'en rend pas compte, mais on devient tous à un moment ou un autre émotifs sur les réseaux sociaux. Puis je serais assez d'accord pour dire que les sœurs Stratis, si les gens les connaissent pas, les sœurs Stratis, c'est les filles qui étaient à l'origine des blogs
Mon petit look.
Ou TPL Mom. C'était des blogs très populaires. Puis effectivement, ils ont fait partie ils ont fait partie de la mêlée hein, quand il y a eu des vagues de dénonciations. Elles encourageaient les dénonciations d'agressions sexuelles. Ça a toujours été des blogs très des blogueuses très progressistes. Ben effectivement, après ça, est-ce que ça se peut que ces filles-là aient manqué de délicatesse dans leur façon de dénoncer certaines choses? Absolument. Et puis je me mets dans ce lot-là. Puis moi, je me suis beaucoup questionnée aussi sur ma façon d'aborder ces enjeux-là sur les réseaux sociaux. Parce que c'est vrai que des fois, on veut faire des critiques sociales, mais bon, on se laisse emporter par l'émotion. Puis c'est plus tant une critique qu'une dilapidation. Puis on rentre dans le tas. Des fois, c'est juste, on veut juste faire des jokes. On veut juste prendre part à une espèce de surenchère humoristique, là, même des fois par les mimes, on peut participer à une forme de harcèlement.
Mais oui.
J'imagine que si vous faites l'objet de plusieurs mimes sur Internet, à un moment donné, vous en avez votre claque, tu sais. Je peux comprendre qu'en tout, ça peut former du harcèlement. Donc, oui, moi, je me suis beaucoup questionnée sur ma façon d'aborder les enjeux sur les réseaux sociaux, puis je pense qu'on devrait tous le faire, hein. Je pense qu'on se regarde jamais aller. On est bon pour pointer du doigt quelqu'un qui se comporte mal sur les réseaux sociaux, mais on réalise pas que deux semaines plus tard, on peut faire la même affaire, mais viser une autre personne. Puis, cela dit, j'ai beaucoup d'empathie pour nous parce que ça fait seulement 10 ans que les réseaux sociaux sont vraiment dans nos vies, là. Puis, ça serait normal qu'on se comporte un peu comme des adolescents qui savent pas trop s'y prendre, tu sais, on est maladroit, des fois on est trop émotif, puis c'est ça qui arrive, on prend part à des espèces moi j'appelle ça le dogpiling, ouais. C'est un phénomène que je décris dans le livre où on se met à plusieurs sur une personne et on se rend pas compte de la portée que ça peut avoir pour cette personne-là.
Ah non, c'est de l'escalade. Puis je sais que tu t'es déjà exprimé un peu sur le sujet, mais moi je suis plus de l'école que les débats sur les réseaux sociaux, ça donne rarement quelque chose de bon. Là, des fois, ça met en relief tes enjeux réels, mais tu sais, la règle du troisième commentaire qui dégénère tout le temps, c'est tout le temps ça. Hey, je te donne un exemple ridicule. À un moment donné, je mets une photo de mon chien sur Facebook, OK, là. Mon chien, OK, il est là. Puis il y a quelqu'un qui dit en joke un auditeur super fidèle, qui le trouve lettre, OK, en joke. Bon, fait que moi, je réponds, ben voyons, tu me fais de la peine, nanana. Et là, je te mens pas, là, il y a une armée d'auditrices que j'aime beaucoup, là, mais qui sont mis à attaquer mon auditeur en disant que c'était monstrueux.
Pour me défendre.
Puis là, ils se sont mis à faire du dogpiling, comme t'appelles, puis à dire à quel point il était un monstre, de dire que Socrate était pas beau, puis que c'était un beau chien, puis que c'était le chien de ma famille. Fait que tu sais, je te dis, sur les réseaux sociaux, on se retrouve tellement à tout amplifier que le dialogue devient impossible.
Oui, puis on perd certains niveaux aussi de nuances, des fois, dans justement, on sait pas exactement c'est quoi l'intention de cet homme-là, on comprend pas le ton, on comprend pas le niveau.
Exact.
Donc, on perd un peu de cette... C'est des éléments qu'on a quand on est face à face, qu'on s'exprime. Puis il y a ça aussi, hein, la distance que créent les réseaux sociaux nous donne l'impression que des fois, on s'adresse à quelqu'un, on lui dit des choses pas mal moins polies que ce qu'on serait capable de lui dire dans la vraie vie. Cela dit, en même temps, tu seras d'accord avec moi, Jean-Simon, que les réseaux sociaux nous ont permis de mettre à l'avant des enjeux super importants dans les dernières années, comme Black Lives Matter ou comme le mouvement MeToo. C'est ça, c'est comme le revers de cette médaille-là, c'est que des fois, les réseaux sociaux, on mesure pas toujours leur portée, puis ça fait, c'est pour le meilleur et pour le pire. Hein. On a des très belles répercussions de ça, puis en même temps, c'est un peu complexe à gérer.
Absolument, puis le problème, c'est ce qu'on voit, je trouve, beaucoup sur les réseaux sociaux, dis-moi ce que t'en penses. D'une part, t'as une droite réactionnaire qui traite à peu près tout ce qui bouge de communiste, puis de l'autre bord, t'as une gauche en bourgeois le vert qui traite des gens de racistes, d'homophobes, de fascistes. T'as pas l'impression, en tout cas, moi, c'est mon impression à moi, parce que, tu sais, je parle aux gens tous les jours, là. J'ai l'impression que monsieur, madame, tout le monde est laissé un peu derrière, parce que c'est pas vrai que monsieur, madame, tout le monde regarde son voisin et dit ça, c'est un communiste, ben non, ça, c'est un fasciste. Tu sais, les gens, en général, Judith, dans ces beaux grands débats-là, qui virent en insultes parfois, ils se positionnent où?
Mais c'est difficile parce que justement, les réseaux sociaux sont pas faits pour la nuance. Hein. Quand on traite quelqu'un de raciste, qu'est-ce qu'on veut dire dans le fond? Est-ce qu'on est capable de dire en plus de mots qu'est-ce qui peut être dérangeant dans son comportement ou qu'est-ce qui fait en sorte qu'on en vient à cette conclusion-là que ce serait raciste? Je dis ça pour le racisme, mais pour le sexisme, la même affaire. Tu sais, moi, je veux dire, dans les dernières années, je me suis beaucoup, beaucoup exprimée sur les réseaux sociaux, puis de moins en moins, justement, avec les années, je pense que je me tourne justement plus vers les essais, vers les livres, parce que pour moi, c'est c'est un endroit plus propice pour avancer des idées plus complexes, plus nuancées. Je pense pas qu'il faut avoir cette attente-là là, que les réseaux sociaux vont nous permettre d'échanger vraiment des idées. T'sais. Après ça, peut-être qu'on va s'améliorer. Peut-être que avec l'expérience, on va plus faire la part des choses. Là. Quand on regarde, par exemple, notre rapport à la télévision, il y a 50 ans, on pensait que le personnage de Donalda existait vraiment, puis elle recevait des plats parce qu'on se disait pauvre madame. Mais là, aujourd'hui, on est un peu là-dedans avec les réseaux sociaux. T'sais, on mesure pas exactement encore, tu sais, c'est-tu réel, c'est pas réel, les émotions que je vis à travers ça, c'est vrai. Ouais. Fait que, tu sais, je pense qu'on est en train d'apprivoiser ce médium-là, puis qu'on va s'améliorer, là, j'ai beaucoup d'espoir.
Ah, ben, je te le souhaite, je suis plus cynique un peu, personnellement, mais bon, ça, c'est ma caractéristique principale, être cynique. Mais parce qu'il y a un psychiatre qui m'a déjà dit, un psychiatre que je connais, les médias sociaux, c'est comme si on voyait les pensées en temps réel de tout le monde. Puis il dit, le cerveau humain, il est pas fait pour savoir ce que ton voisin pense tout le temps. Tu sais, des fois, on a toutes des pensées méchantes, Judith, là, quand on passe dans la rue, qu'on voit quelqu'un qui confile pas, tu sais. On le dit pas, tu sais, on crie pas une insulte à quelqu'un. Mais les réseaux sociaux, on dirait que c'est exactement comme si nos pensées méchantes, on les véhiculait. Puis le problème, c'est que trop souvent, je trouve qu'on lit pour conforter nos idées plutôt que les confronter. Fait que là, ce qui va arriver, c'est que les gens de gauche progressistes vont lire Judith Lucier, les gens de droite conservateurs vont lire Guy Nantel, puis vont dire Guy Nantel a raison, puis les autres de l'autre bord vont dire Judith Lucier. Tu sais, on est pas un peu dans ce dialogue de sourds.
J'invite les conservateurs à me lire s'ils sont vraiment, ils prétendent vraiment qu'ils veulent ouvrir le dialogue. Moi, je l'ai lu Guy Nantel, alors je peux dire que je suis dans l'ouverture, je suis dans l'accueil, pas toujours d'accord.
Non, mais ça, c'est correct, tu sais, puis c'est correct de pas toujours être d'accord. C'est ça qui est important, j'ai l'impression. Mais tu sais, on a tendance, puis tu en as parlé avec les réseaux sociaux, à tellement se polariser à cause de ça. Mm-hmm. Fait que là, tout le monde s'attaque. Puis tu le démontres bien dans le livre. Ça c'est définitif qu'il y a autant des tenants de la droite qui ont essayé d'annuler des progressistes versus des tenants de la gauche qui ont essayé d'annuler des gens plus conservateurs. T'as raison aussi de dire, puis ça, je le répète souvent, mais les gens qui disent on peut plus rien dire, c'est souvent ceux qui parlent le plus à TV. Bon, ça, on est d'accord là-dessus. Par contre, ça, c'est une affaire sur laquelle je m'inscris un peu en faux. Tu sais, tu parles du cas de Concordia, à un moment donné, des étudiants à Concordia, une histoire épouvantable, là, en lien avec une traduction d'un titre avec le mot en haine, tout ça, puis les étudiants vivent un traumatisme, puis tu dis, bon, ce que les étudiants aujourd'hui à Concordia font, il y a un héritage derrière ça. Je trouve que des fois, on suranalyse ce que les militants font. T'sais, honnêtement, des fois, là, les gens, par exemple, là, à droite puis conservateurs, ils n'ont pas tout le temps une réflexion aboutie sur le nationalisme puis l'immigration. Ça se peut-tu aussi que des fois, les militants de gauche, là, ils sont juste là dans le premier niveau, puis il n'y a pas non plus une grande réflexion poussée sur le passé, l'histoire, pourquoi j'agis?
Ah, ça se peut. C'est sûr que les militants qui sont mis de l'avant dans ces histoires-là, c'est pas toujours les plus nuancés non plus. Puis ça se peut très bien qu'il y en ait qui vont vraiment trop loin. Cela dit, quand je pense à l'histoire de Concordia, je trouve qu'on la sursimplifie beaucoup. Parce qu'on oublie, tu sais, on méprise un peu ces étudiants-là en disant vous connaissez pas l'essai de Pierre Vallière, vous savez pas de quoi vous parlez, parce que c'est de cet essai-là dont il est question avec le fameux mot en N. Mais en même temps, quand je parle à plusieurs Québécois, peu de gens connaissent l'histoire des émeutes de Concordia qui ont mis en lumière le racisme dans cette université-là dans les années 60, où il y avait plusieurs étudiants caribéens qui se plaignaient du mauvais traitement d'un professeur et ils ont commencé à faire des manifestations, ils se sont barricadés dans les locaux de l'université et à un moment donné, il y a un feu qui a pris puis de l'extérieur, il y a des gens qui criaient burn, là, je ne dirais pas le mot, là, mais burn de mot en N. Puis ça, les Québécois ne savent pas ça. Puis ça, c'est arrivé dans les années 60 là, à Montréal. Fait que je pense que des fois, on manque un peu de... Puis aussi, on a résumé cette histoire-là à ce mot-là qui avait été prononcé par le professeur et on avait évacué là, de la pétition des étudiants en question tous les autres griefs qu'il y avait par rapport à cette professeure-là c'était pas la seule chose, puis nous, on a résumé ça à un mot qu'on peut pas dire, puis on a aussi amalgamé ça avec d'autres histoires. Alors là, on a l'impression que la prof de Concordia a été renvoyée, alors que c'est pas ça du tout l'histoire. Là, il y a eu une pétition, puis bon, ça a été dûment noté là, par la direction, mais il y a pas eu, après ça, il y a eu une discussion mais il n'y a pas eu la personne qui a été renvoyée. Puis, donc, tu sais, des fois, je pense qu'on se fait des peurs aussi quand on... Puis je comprends, là, parce que c'est super sensible. C'est là, ça touche à la liberté d'expression. Puis évidemment, on veut pas perdre la liberté d'expression. C'est quelque chose qui nous est cher. Puis d'ailleurs, on le voit très bien, là... avec, par exemple, l'affaire Mike Ward, on voit que c'est un sujet qui est excessivement pris au sérieux, qui est pas pris à la légère. Puis on a été devant les tribunaux trois fois là pour confirmer une décision, puis réaliser que collectivement, on n'est peut-être pas on n'est pas à l'aise avec la censure, même si on n'est pas à l'aise non plus avec la blague que Mike Ward a fait. Fait tu sais, là, je m'égare, mais je trouve que...
Non, mais...
On veut être dans le noir ou le blanc, puis je pense qu'on peut être à la fois Mike Ward et Jérémy Gabriel, on peut être à la fois... On peut être dans les nuances, c'est possible.
Je suis d'accord et je suis persuadé parce qu'il y avait des gens qui avaient peut-être des a priori sur toi, de ce que je lisais des textos juste avant l'entrevue, qui vont se rendre compte que t'es pas mal plus nuancé. Ou comme dirait Mathieu Boccoté, t'es une woke parlable, je dis-tu.
Je suis une woke parlable, c'est un badge d'honneur que j'aime bien, je vais le garder assez longtemps.
Un jour, c'est dans ma bucket list, je vais te recevoir en studio avec Mathieu Boccoté puis on va faire un beau débat en onde, c'est garanti.
Ah, ça fera plaisir.
Quand tu reviendras de France, là, il trippe des bulles en France. Bon, salut Judith, c'était un plaisir de jaser.
C'était un plaisir,
Jean-Simon. Salut, à bientôt. Judith Lussier, autrice, chroniqueuse, journaliste, militante, autrice d'Annuler, réflexion sur la cancel culture. Qu'en avez-vous pensé? Hâte de lire vos commentaires au 25226. D'ici là, passez une excellente soirée et surtout, faites du bruit.